On s'attaque aujourd'hui à un sujet assez dense et vaste, suffisamment. J'ai pris quelques notes pour ne pas perdre du temps, pour essayer de faire tout loger dans une heure, mais j'invite beaucoup à poursuivre après la lecture de l'Ecclésiaste, chacun avec un regard nouveau sur ce livre. On l'a attaqué le mercredi soir en lecture et on en a jugé un peu la difficulté comme un arbre peut cacher toute la forêt, c'est selon l'expression coutumière. On ne s'attardera pas sur toutes les exégèses qui ont été faites sur la date et l'inspiration et l'auteur de ce livre. L'Ecclésiaste veut dire l'assembleur, celui qui rassemble. Alors on imagine mal qu'il rassemble des hommes, mais on voit très bien ce qu'il a pu faire quand on a lu ce livre en rassemblant toutes sortes d'observations très lucides sur la condition de l'homme et sur sa raison d'être. Son but, et parce qu'il y a un but dans ce livre, c'est d'amener tout homme par l'ensemble de ses constats sévères qu'il fait à voir que tout dépend de Dieu et que toute crainte lui est due. Pour situer l'esprit de ce livre, on s'attaque aujourd'hui à un sujet assez dense et vaste, suffisamment, j'ai pris quelques notes pour ne pas perdre du temps, pour essayer de faire tout loger dans une heure, mais j'invite beaucoup à poursuivre après la lecture de l'Ecclésiaste, chacun avec un regard nouveau sur ce livre. On l'a attaqué le mercredi soir en lecture et on en a jugé un peu la difficulté comme un arbre peut cacher toute la forêt, c'est selon l'expression coutumière. On ne s'attardera pas sur toutes les exégèses qui ont été faites sur la date et l'inspiration et l'auteur de ce livre. L'Ecclésiaste veut dire l'assembleur, celui qui rassemble. Alors on imagine mal qu'il rassemble des hommes, mais on voit très bien ce qu'il a pu faire quand on a lu ce livre en rassemblant toutes sortes d'observations très lucides sur la condition de l'homme et sur sa raison d'être. Son but, et parce qu'il y a un but dans ce livre, c'est d'amener tout homme par l'ensemble de ses constats sévères qu'il fait à voir que tout dépend de Dieu et que toute crainte lui est due. Pour situer l'esprit de ce livre, il emploie le mot d'Elohim dans ce livre, que j'ai cité une quarantaine de fois, ce mot. C'est le Dieu qu'il invoque et ça représente la plénitude de la divinité plus que le nom de l'Éternel qui était révélé à Moïse, ou celui de Jéhovah, qu'on trouve beaucoup dans les psaumes. Et ça veut dire que ça s'adresse à tout homme sous le soleil. Et cette expression « sous le soleil » indique bien, c'est répété 29 fois, c'est universel, ça représente tous les hommes, ça dépasse le cadre du peuple juif. Et même si la culture de l'Ecclésiaste est tout à fait empreinte de la culture d'Israël, et de la Bible, et de la Genèse en particulier, son discours s'adresse à tout homme. Son discours n'est pas moralisateur, il n'est pas dogmatique, et c'est plutôt un constat que l'on comparera avec profit avec celui de Romains 1, versets 18 à 32. On peut lire ce passage parce qu'il éclaire bien tout ce livre de l'Ecclésiaste. Je lirai rapidement ce passage de Romains 1 parce qu'il devrait rester à nos esprits. Verset 18, « Car la colère de Dieu est révélé du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par des choses qui sont faites. Et ce verset 20 sera souvent cité devant nos yeux. « Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. » Et puis la suite, je ne vais pas lire tout le passage qui nous décrit toute cette dégringolade de l'homme qui se vautre dans l'impureté et se ressent en dessous de la bête. Salomon, c'est le nom qu'il revendique avec toute la sagesse et toute l'expérience que ça représente, cette sagesse fameuse qui venait de Dieu. Et nous lirons bien encore ce qui est dit de cette sagesse de Salomon dans 1 Roi 3. Je lis rapidement quelques mots. Voici, c'est Dieu qui lui parle, verset 12. « Je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il ne se lèvera personne comme moi. » Voilà, et puis encore dans le chapitre 4, au verset 29, « Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large, comme le sable qui est au bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient. » Voilà, cette sagesse fameuse dont il revendique, mais il fera en même temps un bilan très sévère de son royaume et de sa vie même. Le livre de la Genèse est très présent aussi. Il remplit presque tout le livre de l'Ecclésiaste. Il est bon de rappeler qu'il cite cette malédiction qui s'est passée sur le sol et cette sentence sur Adam. « Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. » C'est une citation de Genèse 3, verset 17. Et sur Caïn dont le nom veut dire « acquisition ». C'est tout un programme, c'est toute la folie des hommes. Genèse 4, verset 12, qui erre à la poursuite d'un manque, qu'il a. Et ce manque, c'est Dieu tout simplement. Et Dieu qu'il fuit, Dieu dont il se protège, dont il essaie de se protéger en bâtissant des murs, en créant des villes, et dont il met le nom de son fils dessus comme pour proroger un petit peu sa petite vie misérable. Abel, son nom veut dire fumée. Et c'est le même mot que ce mot vanité, vanité des vanités qui va être employé une trentaine de fois dans ce livre, vanité. Certains auteurs traduisent par fumée. Et bon, dire fumée des fumées, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Bon, nous garderons ce mot vanité, et qui est le mot d'Abel, cet homme fugitif, qui avait plus à Dieu pourtant, et qui avait été écrasé par la jalousie de son frère Enoch, aussi qui marchait avec Dieu dans sa crainte. On peut lire dans cette Genèse aussi, dans les premiers chapitres, puis avant la chute, Adam avait reçu un programme simple, c'était cultiver et garder le jardin d'Éden. Il n'avait rien à faire en quelque sorte, mais il n'était pas condamné à l'oisiveté. Il devait cultiver et garder. Et toutes les autres questions étaient en Dieu. Il n'y avait pas de problème à se poser, toutes les questions étaient en Dieu. Mais après la chute, avec cette promesse du serpent qui lui avait dit « tu seras comme Dieu », il s'est coupé de Dieu et sa vie est devenue limitée et incertaine. Et alors cette clé de la connaissance du bien et du mal, que Satan lui avait fait miroiter, lui a posé plus de questions insolubles que de réponses satisfaisantes, bien sûr. Mais c'est exactement le sujet de l'Ecclésiaste. Il est difficile d'en faire un plan, parce que c'est plutôt un tissu continu jusqu'à arriver à une conclusion. Ce n'est pas non plus une juxtaposition de proverbes que l'on puisse extraire de leur contexte, parce qu'on le verra en lisant ce texte, et c'est assez dangereux. Puisque un verset peut être expliqué par un autre verset qui est plus loin. On pourrait plutôt considérer ce livre comme une tapisserie faite avec des trames, avec des fils différents, qui apparaissent, qui disparaissent, qui s'entrecroisent, pour former à la fin un dessin, et qui donne un message, et on pourrait citer le nom de ces trames, de cette tapisserie, c'est le travail, la richesse, la sagesse, le bonheur, le temps. Alors, pour s'y retrouver, on parcourra tout simplement ce livre assez rapidement, mais en se laissant guider par la trame travail. Voilà, c'est un sujet qui est tout à fait actuel, et qui intéresse tout homme, et qui intéresse toute l'activité des hommes. Et cette trame travail, elle est liée à toutes les autres trames. Par travail, on entend tout ce que l'homme est amené à faire. Sous le soleil, il est occupé, ou à rechercher, à faire. Voilà. Donc on va attaquer directement la lecture de ces chapitres, mais on les lira un peu en pointillé, je citerai les versets au passage. Le préambule, c'est vanité des vanités, évidemment, c'est quelque chose qui est cité très largement dans ce monde sans en saisir toute la portée. C'est comme une chape qui s'abat sur toute l'action des hommes. Et tout est dit à l'entrée, c'est au verset 3 du chapitre 1er, Voilà, c'est tout dit. Quel profit à l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil? Voilà, un labeur marqué par la vanité, limité à sa petite sphère, sous le soleil. Les générations se succèdent, elles sont volatiles dans une création qui est entraînée dans un mouvement perpétuel, un recommencement toujours renouvelé. Eh bien voilà, l'homme est là et il s'agit, et il se repose jamais, et à son cœur même se repose jamais. Alors l'Ecclésiaste, placé dans ce cadre d'homme, s'est appliqué à rechercher et à explorer avec sa sagesse exceptionnelle, qui est celle de Salomon, tout ce qui se fait sous les cieux. Alors si lui, il arrive à ces constats, il est bien évident que nous, des hommes ordinaires, nous devons suivre, nous ne pouvons que le suivre, pas à pas après ces constats, puisque lui, ce sage exceptionnel, a fait ce constat-là. Nous devons découvrir après lui tout ce qu'il a trouvé. C'est une occupation ingrate que Dieu a donnée aux hommes pour qu'ils s'y fatiguent. C'est la fin du verset 13. Voilà. Et nous trouvons là un premier don étrange que Dieu a fait à l'homme et qui correspond à ce passage de Romains 1, verset 20 que nous avons lu, où l'homme est chargé de discerner à travers la création. Il est appelé à le rechercher, à discerner toute la gloire et la grandeur de Dieu. C'est ce que le sage a fait, et c'est ce que l'homme en général n'a pas fait. Il fait un premier constat, eh bien le résultat de cette recherche, c'est vanité et poursuite du vent. C'est le verset 14. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Pour pas que l'homme qui est devenu un très grand technicien n'ait pas réussi à redresser et à modifier quelque peu son environnement, mais il ne peut jamais et en rien changer le cours des choses. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui est tordu et limité. Voilà, il pense que la nature, il peut essayer de la maîtriser, de la modifier, et en fait, il n'y arrive pas parce que c'est lui qui est tordu et limité. Voilà, c'est Fouachit qui découvre ça. Et ça s'est expliqué dans le verset 11 du chapitre 3, parce qu'il ne peut comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. Pourquoi ? Parce qu'il a un manque en lui, il a un manque incurable. Et ce manque qu'il pèse sur lui, bien c'est Dieu lui-même, dont il croit pouvoir se passer. Alors, dans la mesure extrême de ce roi Salomon, il se dépasse. Cet ecclésiaste, qui prend le personnage de Salomon, s'est dépensé à bâtir, à planter, à acquérir, à amasser, à s'accroître dans tous les domaines. Donc, il a eu une activité qu'aucun homme, peut-être sur la terre, n'a pu avoir. Et son bilan d'acquis personnel à la fin, voilà, c'est tout le sujet du début du chapitre 2. Son bilan d'acquis, c'est nul. Verset 11, vanité, poursuite du vent. Voilà ce que c'est. Aucun profit sous le soleil. Alors, à la fin de l'Ecclésiaste, il dit que ces proverbes, toutes ces pensées qu'il faut accueillir au passage sont comme des clous et des aiguillons. Alors, nous allons noter quelques clous au passage qui nous serviront de repère. Et nous trouvons, dans le chapitre 2, au verset 10, à la fin, un premier clou énigmatique. À ce stade du livre, son cœur s'est réjoui d'avoir agi et entrepris. C'est là toute la part qu'il a eue de son travail. C'est curieux. On verra que ce clou va croître en luminosité. Alors, nous verrons que dans ce chapitre 2, ce premier bilan de vanité en entraîne un autre. Au verset 17, lui, le sage, se trouve au même point que le fou à la fin de sa vie. Alors, ce constat l'étreint au point qu'il en hait sa vie. Quel constat, alors que cet homme si sage, si comblé de toute manière, eh bien il arrive, en examinant tout ce qu'il a fait, il hait sa vie, il l'a en horreur. Et un autre constat lui apparaît en sorte de sa vie, c'est que tout ce qu'il a fait, il ne peut pas le transmettre. C'est une transmission tout à fait incertaine à celui qui viendra après lui, parce qu'il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas si ça sera un sage ou un sot. Au verset 20, il se désole à faire désespérer son cœur à l'égard de tout le travail dont il s'est tourmenté. Voilà donc un cheminement pénible qu'a l'Ecclésiaste, après lequel il nous entraîne. Il arrive au verset 24, un deuxième clou. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger et de boire. Alors voilà, quel clou étrange. Et on se détourne là de l'ambition qu'il y avait au début du chapitre, où il faisait tout, il avait acquis tellement de choses, et bien voilà, voilà cette ambition. Et toute petite maintenant, il se détourne, et on touche presque à cette expression de Matthieu 5, verset 3, « Bienheureux les humbles, les pauvres en esprit, les pauvres en eux-mêmes, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. » On trouve alors ce deuxième clou, et La seule chose qui est acceptable, c'est de faire jouir son âme du bien-être dans son travail. Parce que j'ai vu que cela vient de la main de Dieu. Voilà quelque chose d'étrange. Au milieu de toute cette débauche d'énergie et de projets et de richesses, eh bien, il trouve que manger, boire, jouir du bien-être, il trouve que c'est un don de Dieu et voilà, ça lui suffit. Alors, il trouve ces dons de Dieu. Et nous voyons au fin du verset 24, il a vu que Dieu est un Dieu qui donne. Et c'est une révélation que Dieu est un Dieu qui donne. Et 14 fois, dans les livres de l'Ecclésiaste, on trouvera cette expression que Dieu donne. Dieu donne. Et là, c'est une caractéristique surprenante de ce livre qu'on a de la peine à trouver quand on lit verset après verset. Alors, il donne quoi ? À celui qui est bon devant lui, c'est la fin du chapitre 2, il donne à celui qui le recherche, il donne sagesse, connaissance et joie. Et à celui qui pêche, à celui qui veut se passer de lui, passer de Dieu, cette occupation de rassembler, d'amasser, ce qui a pour fin le désespoir. Et c'est ce qu'il a vu, il a pu constater, cela est vanité et poursuite du vent. Et cette expression du Dieu qui donne, il donne sans contrepartie. C'est ça qui est étrange. Jacques, dans le chapitre 1er, nous a cette pensée-là, de ce Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche. Il dit encore un peu plus loin, verset 16, 1er de Jacques, « Ne vous égarez pas, mes frères, bien-aimés, tout ce qui est donné de bon, tout don parfait, descendant du Père des Lumières. » Cette vision d'un Dieu qui donne nous est familière à nous qui vivons en 2007, qui avons connu Christ et tout ce qu'il a donné avec lui. Et pour le peuple d'Israël qui murmurait sans cesse et qui avait peur que Dieu lui adresse la parole, cette humanité rebelle, c'est un scandale insupportable. On préfère accuser Dieu de tous les maux que de considérer en lui un Dieu qui donne. Alors, nous allons aborder le chapitre 3. Dans cette trame sombre dont le tissu de réflexion de l'Ecclésiaste, cette trame sombre, c'est la non-maîtrise de son temps de vie, de ce qui viendra après lui. C'est le sujet du chapitre 3. La mort attend le sage comme le fou, et il ne sait à qui il abandonnera le fruit de son travail. Mais même pendant son temps de vie, il y a un déroulement qui lui échappe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il constate que il y a un temps déterminé pour toute chose, qui ne semble pas dépendre de l'homme. Il constate qu'à chaque activité qu'il a, il y a une activité contraire. Les deux s'annulent. Comme on dit ironiquement dans notre monde, faire et défaire, c'est toujours travailler. Eh bien voilà, il décrit la totalité de l'action de l'homme en 14 coupes d'activités que chacun pourra lire. Il y a un temps de pleurer, un temps de lire, un temps de lamenter, un temps de sauter de joie, un temps de jeter des pierres, etc. Chacun lira cela. Nous constatons qu'il ne fait pas de jugement de valeur sur les deux parties de ce couple. Il constate que bon, il y a un temps d'amasser des pierres, un temps d'en jeter. On ne peut pas dire que ce soit meilleur ou plus mauvais. Il constate que c'est un cadre de temps qui est laissé à l'homme et ça remplit son activité. Mais nous constatons aussi qu'il n'y a pas de place pour l'inaction. Si 14 couples d'action est contraire, et il n'y a pas de place pour l'inaction. Donc l'homme est entraîné dans une course tout à fait fatigante. Et si tous les couples s'annulent, alors à ce moment-là, à quoi bon travailler ? Celui qui agit, et c'est sa conclusion, quel profit a-t-il de son travail, puisqu'il fait toujours le contraire de ce qu'il a fait avant ? Mais sa réflexion ne s'arrête pas à ce constat de néant qui est décourageant. Il y a ce chiffre 14, 2 fois 7, qui suggère que Dieu, bien que sur cette action l'homme se passe sous les cieux, c'est Dieu qui détermine ce temps et qui les prépare. Il y a une autre clé qui ouvre une porte. Dieu a disposé ce champ d'action en apparence d'un bilan nul pour que les fils des hommes s'y fatiguent et s'y emploient. Ce n'est pas eux qui ont choisi les hommes. C'est Dieu qui choisit leur cadre, qui dispose des choses. Et il donne à ses actions une deuxième clé. Il a fait toutes choses belles en son temps, c'est le verset 10, de sorte que dans chacune de ses actions, il y a une beauté de Dieu, le temps agréable, un sens donné qui est non pas dans l'action elle-même, puisqu'on a dit qu'il n'y voyait pas de valeur morale particulière, mais dans le temps où Dieu donne de l'affaire. Il prépare, nous dit Éphésiens 2 au chapitre 10, les bonnes œuvres où nous devons marcher. une troisième clé est donnée, sur verset 11, « Dieu a mis le monde dans leur cœur ». C'est traduit ailleurs, le monde est traduit ailleurs par « éternité » ou « les choses cachées ». Quelque chose de difficile à comprendre, mais on peut comprendre que ce don à l'homme, comme la perception du temps qu'il dépasse, où Dieu est caché, de sorte que l'homme ne peut pas comprendre du commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Dieu a mis en lui cette recherche, cette notion du temps, des choses cachées qui lui échapperont définitivement, mais après lesquelles il doit courir. Mais l'Ecclésiaste nous dit que l'homme est inscrit néanmoins dans ce temps-là et qu'il est responsable d'y rechercher Dieu, ce que nous avons lu dans Romains, verset 20, toujours ce verset 20, qui est un verset clé. Et nous trouvons un troisième clou dans le verset 13. Dans ce cas où l'homme est donc placé dans ce temps, où il doit rechercher le temps agréable à Dieu, il peut se réjouir dans les choses simples de la vie. Manger, boire, jouir du bien-être que procure son travail, c'est un don de Dieu. Encore un don de Dieu. Et si Dieu a mis l'homme dans ce cadre du temps dont l'organisation lui échappe, c'est afin que devant lui on craigne. C'était le but donné dans le verset 14. Et nous entrevoyons là ce que sera sa conclusion. Alors dans la suite du chapitre 3, nous voyons bien que l'homme n'entre pas dans ce cadre de Dieu parce que son cœur est méchant et pervers. Il ne respecte pas le temps convenable et beau déterminé par Dieu. Il ne le recherche pas et au lieu de cela, il suit ses penchants. Alors sa méchanceté se trouve au plus haut niveau, qui est celui de la décision, du jugement. Et sous le soleil, on peut remarquer que dans toutes les couples d'actions que l'Ecclésiaste a cités, il n'y a pas le couple justice et injustice. Là, c'est pas cité. Et pourquoi? Parce que, il le dit dans le même chapitre, parce que sous la terre, eh bien, parmi les hommes, il n'y a que de l'injustice. Alors, on pourrait se demander où est passée la fameuse justice de Salomon, dont on cite l'exemple à l'occasion de ces deux femmes qui disputaient un enfant. Eh bien voilà, c'est étrange ce constat que fait l'Ecclésiaste. Sur la terre, il n'y a pas de justice. Alors, le sage, en faisant ce constat d'impuissance, qui ne peut rien voir de ce qui se passe et de ce qui va se passer, il dit on ne se souviendra pas du sage non plus que du fou, puisque déjà dans les jours qui viennent, tout est oublié. Mais il y a cette phrase, « Dieu jugera le juste et le méchant. » Il le jugera par rapport à ce temps que Dieu a déterminé, c'est le verset 17, par rapport à ce fait qu'il a déterminé un temps, un juste temps, où l'homme doit agir dans ce que Dieu lui présente. Ce temps du discernement du temps agréable à Dieu et du temps agréable de Dieu est le critère par lequel Dieu éprouve les hommes. Quelles sont nos priorités? Quelles sont les priorités des hommes en général? Voilà une question qui rejoint ce discernement du temps choisi pour faire la bonne action. Alors le constat évident, c'est que les hommes se conduisent comme des bêtes. C'est la fin du chapitre 3. Et c'est le même constat que faisait Jude au verset 20. Des bêtes sans raison destinées à être jetées. Et ils retournent de même à la poussière. Comme des bêtes. Alors, ils se conduisent comme des bêtes à se demander, c'est une question qu'il pose au verset 21, que devient le souffle de l'homme? Dieu lui a donné un souffle de vie, cette expression de Genèse 2, verset 7. Et puis voilà, il se pose la question au verset 21, voilà. Les hommes et les bêtes se retrouvent au même endroit, dans la poussière. Alors, où va l'homme? Où va l'esprit de l'homme? Alors, c'est une question qui reste en suspens, vu la conduite injuste des hommes sur la terre. Comment ils se conduisent? Eh bien, cette question reste posée. Mais il ne reste pas sur cette conclusion incertaine. L'Ecclésiaste invite à la modestie, sinon à l'humilité. Au verset 22, il n'y a rien de mieux que ceci, que l'homme se réjouisse dans ce qu'il fait, c'est là sa part. Alors c'est aussi une phrase étrange, parce qu'on a vu que l'homme n'était pas juste, qu'il ne faisait que des injustices au plus haut sommet. Eh bien, ce n'est pas non plus une invitation à l'autosatisfaction que l'homme se réjouisse dans ce qu'il fait. Est-ce qu'un assassin ou un malfaiteur pourra se réjouir dans ce qu'il fait, sachant qu'il sera amené en jugement? Et c'était le verset 17 qui nous disait cela. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour tout affaire. Et ce verset 22 ainsi que les clous déjà cités, est éclairé par le verset 7 du chapitre 9. Donc vous voyez, il faut faire un pas en avant, nous le reverrons au passage. Car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Voilà, si tu veux te réjouir, si tu peux te réjouir de la part qui t'est donnée, eh bien c'est parce que déjà Dieu a tes œuvres pour agréables. C'est la condition sous-entendue nécessaire pour qu'un homme ait cette part de se réjouir dans ce qu'il fait. Alors je passe rapidement sur le chapitre 4. Il apparaît clairement que ce n'est pas le cas sous le soleil, parmi les hommes. Si on regarde autour de soi, il n'y a pas lieu de se réjouir. Il n'y a que oppression et aucun consolateur. Et en voyant tout ce mauvais travail, l'Ecclésiaste s'exclame au verset 2 du chapitre 4. « Heureux les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux encore que tous les deux, celui qui n'a pas encore été et qui n'a pas vu tout ce mauvais travail. » Alors verset 4. « La méchanceté de l'homme rend vain tout le travail et même l'habileté au travail. À cause de cette jalousie de l'un contre l'autre, et nous remontons aux deux premiers hommes qui se sont disputés, Caïn et Abel par exemple. Alors, est-ce qu'on va prendre ce prétexte à cela pour ne rien faire? Ben non. L'Ecclésiaste nous coupe l'herbe sous le pied, il dit bien le sot, au verset 5, se croise les mains et mange sa propre chair. Alors on est coincé entre le désastre que consiste le travail et puis le fait de ne rien faire. Alors, il y a ce paradoxe, bien le verset 6, l'Ecclésiaste nous insiste au travail, mais avec mesure. Mieux vaut le creux de la main rempli que les deux mains pleines avec du travail. Avec du travail, sous-entendu, avec trop de travail. Verset 7. C'est une grande vanité que de se gâcher la vie à travailler pour travailler, sans avoir quelqu'un pour en faire profiter, fils ou frère. Entre cette solitude qui rend le travail aussi vain et cette jalousie aussi vaine les uns contre les autres du travail dans la société, et c'est bien actuel, on comprendrait bien que les choses n'ont pas changé aujourd'hui, qu'il y a bien cette jalousie les uns contre les autres, l'Ecclésiaste introduit un but. Cette association à deux, voire à trois, un petit nombre, deux qui s'entraident, c'est souvent cité à l'occasion des mariages d'ailleurs, c'est une lueur d'encouragement. Et ça veut dire qu'il ouvre une petite porte là, bien voilà, devant toute cette vanité, ce découragement, il y a une direction, se tourner vers l'autre, vers le prochain, voilà. Je passe rapidement sur la fin du chapitre 4 qui est tout à fait bizarre et qui a trait à la succession de Salomon. Et c'est une illustration bien de tout ce que Salomon a fait et qui est tombé à l'eau. Alors nous avons l'impression un roi vieux et sot qui ne sait plus être averti. Et puis ce jeune garçon qui sort de prison, c'est bien un résumé de la fin de Salomon, où ce Jéroboam qui avait été envoyé en exil est revenu pour prendre le pouvoir, selon l'indication de l'Éternel d'ailleurs. Et il y parlait de tout ce peuple qui va après ce jeune garçon. Bien, justement, Jéroboam, qui a succédé à Salomon en usurpant un peu le pouvoir des fils directs, Jéroboam veut dire celui qui amène beaucoup de peuples avec lui. Et donc c'est bien une allusion directe à la succession de Salomon. C'est une triste succession qui s'est traduite par le schisme d'Israël avec l'adoration de deux veaux, un au nord et un au sud. Donc nous voyons bien que le cœur de l'homme est bien méchant. Et alors à la fin du chapitre 5, l'Ecclésiaste traite d'une certaine activité de l'homme, c'est l'activité religieuse. C'est un point élevé du livre, il sort de sa neutralité à ce moment-là pour donner quelques avertissements inspiré par les réflexions qu'il a faites déjà sur ce Dieu qui est hors du temps, et sur ce Dieu qui est un Dieu qui donne, mais qui aussi amènera toutes choses en jugement. Alors il donne quelques conseils bien sobres. Approche-toi pour entendre plutôt que pour parler. Si tu ouvres la bouche, que tes paroles soient peu nombreuses, pourquoi par tes paroles irriterais-tu celui qui est parole et qui peut te détruire, toi et tes œuvres? Et le mot important, le mot clé du livre est lâché. Crains Dieu, crains Dieu. Alors, il y a après deux autres grands sujets qui sont traités par l'Ecclésiaste, deux trames, deux nouvelles trames, qui sont l'argent et les richesses, et la sagesse. Ce sont deux composantes que les hommes pensent nécessaires à leur bonheur, et après lesquelles ils courent et ils travaillent. Et voilà, les richesses, ça sera traité du chapitre 5 au chapitre 7, au verset 28. Le Seigneur disait que Mammon, le dieu des richesses, était son principal concurrent dans le cœur des hommes. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 6, au verset 4. Par les richesses, l'homme croit tout acheter, et c'est là qu'il perd tout. Dans le verset 10 du chapitre 5, à quoi bon travailler pour les richesses? Elles ne rassasient pas ceux qui les désirent, alors que le sommeil est doux pour celui qui travaille. C'est le verset 12. Une saine fatigue, un repos attendu et mérité probablement, ou la satisfaction du devoir accompli, mais c'est un rare fruit bénéfique que l'Ecclésiaste trouve au travail. Mais il trouve ce fruit en opposition avec l'insatiabilité du riche, qui ne laisse pas dormir. Il fait un autre constat, c'est qu'il y a, en verset 13, il y a un mal douloureux sous le soleil, c'est que les richesses sont conservées au détriment de ceux qui les ont. Et l'Ecclésiaste pense certainement à Salomon dans cette phrase-là, qui a été entraîné à pécher et à se corrompre. Il n'a pas été le seul, on pourrait aussi évoquer le roi Ézéchias, qui a invité les ennemis à entrer dans ses trésors dont il se vantait. Ou alors ses richesses périssent malencontreusement, c'est aussi le cas de Job. Le verset 15 de ce chapitre est une citation de Job, chapitre 2, 21. Alors on pose la question, où est le bénéfice d'avoir travaillé pour du vent, pour ses richesses? Deux clous sont plantés là, deux dons de Dieu. C'est le verset 18, voici ce que j'ai vu, c'est le quatrième clou. Voici ce que j'ai vu de bon et de beau, c'est de manger et de boire, et de jouir du bien-être dans tout le travail dont l'homme se tourmente sous le soleil, tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Voilà, ce sont des clous étranges, mais on comprendra à la fin le pourquoi de cette chose-là. L'apôtre dit quelque chose de semblable, c'est quelque chose de moderne. En 1 Timothée 5, verset 6 à 8, il dit que la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Mais en ayant de la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans un piège. C'est une source de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Cette pensée qui devrait être évidente dans la sphère chrétienne était surprenante dans l'environnement de l'Ecclésiaste, ou tout autant que dans le monde où la réussite matérielle est désirable, voire un signe de bénédiction. Alors aussitôt, il donne un cinquième clou, verset 19, un clou brillant avec plein de facettes. Et encore, tout homme auquel Dieu donne de la richesse et des biens est... Non seulement Dieu est en mesure de nous donner de la richesse et des biens, et il faut qu'il donne aussi, en même temps, le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir dans son travail. C'est là un don de Dieu. Dieu peut donner de la richesse, mais il faut qu'il donne aussi, et c'est un don, le pouvoir d'en profiter. Et alors c'est là un don de Dieu qui fait oublier, il nous dit à la fin, verset 19, qui fait oublier tous les tourments. Dieu donne une réponse dans la joie du cœur. Ce que ni le travail ni les richesses ne peuvent apporter, le discernement de ce que Dieu donne et de ses dons permet de saisir et de s'approprier cette joie du cœur et cet apaisement des tourments de la vie. Alors au chapitre 6, après ce sommet de joie et de paix, donc descendant sous le soleil, il constate plus souvent un désir insatiable de richesse. Et si Dieu ne donne pas en même temps, nous l'avons vu, ou si l'homme ne veut pas saisir ce que Dieu donne, cette capacité de contentement pour apprécier ce don, alors tout le travail, toute la vie est consacrée, on peut dire même gaspillée, à un désir jamais satisfait. Même s'il dit, si un homme avait 200 fils, et s'il vivait 2000 ans, ça ne changerait rien à un bilan de vie nul. Un tel homme, au contraire, s'enflerait d'imagination, mais ce serait pour se heurter à plus fort que lui, ce Dieu qui donne et qui dirige tout. Il n'y a donc rien de positif à retenir dans une telle vie qui passe comme une ombre, c'était la conclusion du verset 12. Alors le chapitre 7 commence par une sentence solennelle. Eh bien, s'il en est ainsi, voilà, si vous êtes parti pour courir après des richesses sans apprécier que c'est Dieu qui donne tout, alors voilà, bien il vaudrait mieux entrer dans la maison de deuil que dans la maison des festins. Mieux vaut le chagrin que le rire. Et il parle de ce rire du sot qui rend encore plus désolant cette vanité de la vie. Il est bien évident que ce paragraphe cité en dehors de ce contexte n'a pas de signification. Ça ne peut rien dire de rentrer plutôt dans la maison de deuil que dans la maison de festin. C'est conditionnel. C'est si votre vie est dirigée par cette course aux richesses, eh bien, mieux vaut s'asseoir pour pleurer que de rire. À partir du verset 7, la rame de la poursuite des richesses laisse place à la poursuite de la sagesse. Le regard lucide de l'Ecclésiaste balaie toute la triste réalité des hommes. Il voit le méchant prospérer et le juste périr. Verset 15 du chapitre 7. Bien sûr, la sagesse aide mieux que l'argent à prendre du recul et permet aux sages de comprendre qu'il est impossible de redresser le cours des choses et remet tout à Dieu qui permet les bons et les mauvais jours. Et il a une ressource, c'est la crainte de Dieu, c'est verset 18. Qui craint Dieu sort de tout. Au verset 20, il affirme, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui n'ait pas péché. Ça aussi, c'est une affirmation étrangère à la satisfaction des pharisiens et aussi étrangère à la philosophie grecque qui était environnante et qui était très contente de l'homme en général. Mais c'est la même affirmation que nous trouvons en Romains 3, versets 10 à 11. Non, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Eh bien, l'Ecclésiaste avait discerné cela. Alors, au verset 25, il dit, « Je me suis mis, moi, et mon cœur à connaître et à explorer, à rechercher la sagesse. » Il s'est donné à fond, et c'est un vrai travail. Et il arrive à une conclusion étrange, qui peut paraître d'une misogynie tout à fait désolante et choquante, si on l'isole de son contexte. Alors, bien sûr, en tenant compte de l'excès de style coutumier de l'auteur, c'est montrer combien une femme qui devient un piège hostile pour l'homme peut détruire l'image de la femme que Dieu avait créée pour être une aide corresponde à l'homme. C'est l'expression de Genèse 2, verset 20 à 23. Et l'Ecclésiaste illustre par là ce verset 29. Dieu a fait l'homme droit, mais par son raisonnement, celui-ci a tout tordu. Voilà où on en est maintenant. Dieu a fait l'homme droit, et après la chute, eh bien, il y a ce résultat-là. Mais en plus, il faut ce jugement sur la femme, il faut la placer dans le cadre du règne de Salomon. Surtout cette expression, il n'a pas trouvé une femme entre mille. Alors, il faut nous souvenir que Salomon avait eu 700 femmes et 300 concubines. Ça fait en tout 1000. Et parmi toutes ces femmes, il n'y a pas eu une pour l'emmener vers Dieu. Elles l'ont toutes détournée vers les idoles. C'est vanité. C'est le même mot que vanité des vanités. Et ainsi, ce règne brillant a été tout à fait terni, et cette glorieuse sagesse avec. Alors, on pourrait s'y faire un bond en avant et citer le verset 9 du chapitre 9 pour contrebalancer cet effet défavorable. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité qui t'a été donnée. Alors, dans le chapitre 8, nous voyons que tout ce constat du sage, toute cette quête a un effet sur lui-même, c'est qu'il dit que le sage, l'arrogance de son visage en est changée. Et l'humilité, quand il fait tous ces constats-là, le fait rester à l'écart des excès qui poussent l'homme à faire le sage outre sa capacité ou à être méchant sans retenue parce que la sanction n'est pas immédiate. C'est le verset 11. La prudence l'incite à obéir à l'autorité du roi parce que derrière cette autorité, il y a Dieu. Ce n'est pas différent de Romains 13 qui nous dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Le constat de ce qui se passe sous le soleil le laisse serein, lui le sage, même s'il voit des justes qui ont la récompense des méchants et les méchants honorés comme des justes. Et c'est une expression qui revient souvent, qui est employée au verset 15 du chapitre 7, au verset 14 du chapitre 8, au verset 2 du chapitre 9. Cette injustice est irritante pour celui qui n'aurait pas saisi que pour toute chose, il y a un temps et un jugement. Alors l'Ecclésiaste exprime sa certitude au verset 12 du chapitre 8. Je sais Voilà, c'est ça qui lui permet de garder son calme. Je sais que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. Et nous avons les mêmes certitudes maintenant. Nous avons lu ces choses-là dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, où nous trouvons ces sept certitudes que peut avoir le chrétien. Il y a ceux qui craignent Dieu. Cette crainte de Dieu, Chouraki l'a traduit par un frémissement. Le frémissement. C'est pas de la peur, c'est un frémissement. Un mélange d'émotions, de joie intense et de grand respect. C'était en quelque sorte la joie de Marie quand le chapitre 1er d'Évangile de Luc, quand elle a reçu la visite de l'ange. C'était aussi la joie de Jean le Baptiseur quand il était encore dans le ventre de sa mère. Il avait tressailli de joie quand la mère de son Seigneur était entrée. Alors un sixième clou est mis au verset 15. J'ai loué la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil. Que de manger, de boire et de se réjouir, c'est ce qui lui demeurera tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné sous le soleil. Et pourtant, ce travail de recherche pour comprendre le pourquoi des choses l'a amené à la conviction que c'est impossible, parce que tout est l'œuvre de Dieu et il n'y peut atteindre. C'est aussi la conclusion de Job, la fin du chapitre 42 de Job. Alors le sage se range à cette conclusion de ne pas sortir de sa condition d'homme, parce que l'aise, c'est là sa joie. Nous abordons maintenant le chapitre 9. L'Ecclésiaste, le sage, après s'être appliqué ainsi à rechercher, au point d'en perdre de sommeil, arrive à la conclusion que les justes, comme les sages, sont dans la main de Dieu. La source de tout. Dieu, la source de tout pour eux. C'est un sommet, un refuge, qui lui permet de se mettre à l'écart de ce qui peut arriver devant tout homme et qui ne contrôle pas, c'est-à-dire que ce soit la haine ou l'amour, à l'écart de ce mal qui fait s'agiter le cœur des hommes, où le même événement peut arriver aux justes et aux méchants pour les conduire à la mort où on ne se souviendra plus d'eux. Voilà, il faut toute cette conscience de la faveur de Dieu pour se mettre à l'écart de cette chose qui tourmente. Mieux vaut le jour de la mort que celui de la naissance, chapitre 7 au verset 1, il dit maintenant, car pour celui qui est lié au vivant, il y a de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quand on pense que c'est que le chien dans la culture israélienne, on voit bien l'importance de cette phrase-là. Donc il y a, pour celui qui se confie en Dieu, bien, il y a un but, il y a une joie. Bien sûr, il y a toujours cette crainte de la mort qui efface tout à jamais, mais pour que celui qui se trouve dans la main de Dieu, ben, il n'y a plus cette crainte-là. Il y a alors ce septième clou, le septième et dernier clou au verset 7, et qui dépend de cette crainte de Dieu découverte. Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin d'un cœur heureux, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Voilà, c'est en même temps à la fois un constat et une condition. Dieu a tes œuvres pour agréables. Voilà. Si tu marches, le regard de Dieu en te laissant guider par lui, sans faire de soucis de ces choses qui sont très irritantes, que le juste et le méchant ont le même sort, eh bien voilà, tu peux te réjouir. Mange ton pain avec joie et bois ton vin d'un cœur heureux. La joie ne vient donc pas d'une récompense particulière, puisque le même mal arrive à tous, que ce soit bon ou méchant, mais de la découverte de cette faveur qui est d'être dans la main de Dieu, un Dieu qui donne, à qui il recherche et à qui il veut prendre. Alors que tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire que ta joie soit visible à l'extérieur, nous n'avons pas à être des chrétiens tristes, des chrétiens joyeux, si nous avons conscience de cette crainte de Dieu. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis abondamment de cette faveur, vis-la tous les jours, jouis de la vie, même si c'est une vie de vanité dans le sens qu'elle n'est qu'une fumée qui paraît et disparaît, selon l'expression de Jacques 4 au verset 14. Et avec la femme que tu aimes. Alors on est loin de la misogynie apparente du verset 6 du chapitre 7, parce qu'il y a un partage de joie. Il y a un partage de joie, et le partage, dans ce cas-là, se traduit par un doublement. C'est là ta part, au bout de ce travail de recherche, un don de Dieu, et c'est le seul gain de ce travail. Alors, en s'écartant de cette déception où tout est vanité et poursuite du vent, comme rempli d'une énergie nouvelle, d'un sens à sa vie, dit, sur le verset 10 du chapitre 9, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le selon ton pouvoir. La vie est courte, saisis l'occasion. Le bénéfice n'est plus dans le fruit ou l'acquis du travail que tu vas faire. Il est simplement dans le faire et dans le faire pour Dieu et devant lui. ce qui était en ton pouvoir fait penser à ce Gédéon à qui Dieu dit « Va avec cette force que tu as ». C'est dans le Juge 6. C'est Dieu qui lui demande cette démarche de foi. Le résultat appartient à Dieu. Ça élimine en même temps cette notion de rendement, de calcul de force, de quantité, cette course de puissance qui mène le monde, de toute cette débauche de centrales, d'avions, de tout ce qu'on voudra, dont il ne restera rien dans le Sheol où tu vas. Tant que tu as une force, Dieu te l'a donnée, va avec cette force que tu as. Alors cette incitation, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, nous transporte jusque dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 17, verset 10. Ainsi vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, vous aurez l'impression d'avoir tout fait, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et encore dans cette parole du maître de Matthieu 25, bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Dans le dernier paragraphe du chapitre 9, souligne la vanité des capacités de l'homme dans cette courte course où il est engagé sous le soleil, ce domaine limité où il n'est maître ni du temps dont il dispose ni des circonstances qui peuvent s'abattre sur lui. Ça confirme encore l'urgence et l'importance de saisir les occasions contenues dans le verset 10. Alors le chapitre 9, versets 13 à 18 et le chapitre 10, c'est comme une parenthèse entre le sujet du chapitre 9 et en particulier ce verset 10 que nous avons cité et le chapitre 11. Parce que cette détermination, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, va rencontrer bien des obstacles. Alors versets 13 et 18 du chapitre 9, c'est l'ingratitude illustrée par l'histoire de cet homme qui délivre la ville grâce à sa sagesse et qui est vite oublié. Au verset 1er du chapitre 10, on fait la liste rapidement. Eh bien, un faux pas, un peu de folie, peuvent faire dévier cette marche de sagesse et en ternir la gloire comme une mouche fait fermenter l'huile du parfumeur. Aussi se laisser guider par ses impulsions, ses sentiments, ses désirs. Ça explique cette expression de « le sot a le cœur à sa gauche et le cœur du sage est à sa droite ». Le verset 5, « la justice de la société civile ». Voilà, et alors on se retrouve au chapitre 11, le verset 1. Le verset s'enchaîne sur le verset 10 du chapitre 9. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le suivant ton pouvoir, lequel jaillissait lui-même de la faveur de Dieu trouvée au verset 8 du chapitre 9. » Alors il dit cette chose étonnante. « Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le retrouveras après bien des jours. Donne une portion à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal arrivera sur la terre. » Le travail n'est donc pas une malédiction. C'est un don de Dieu, c'était le verset 13 du chapitre 1er que nous avons lu. Même si tu sais que son résultat est vanité, fais-le, dans la pensée que Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Ce n'est donc pas non plus en faisant n'importe quoi, n'importe quand, ni selon ton désir. C'est sous le regard de Dieu parce que Dieu a tes œuvres pour agréables. Voilà le cas dans lequel on peut agir. Jette ton pain sur la face des eaux. C'est un acte de foi. C'est confier à Dieu le résultat. C'est lui qui donne l'accroissement, nous dit 1 Corinthiens 3, verset 7. Et le temps où tu verras le fruit, lui appartient à lui. Travailler pour l'autre aussi, voilà un but. Pour donner à 7, même à 8, sans lésiner, à ceux que tu vois, et non pas pour préserver, pour une hypothétique descendance. Voilà un sens donné au travail qui l'arrache à la vanité. Le travail t'est donné pour que tu puisses donner. Là aussi, il convient de saisir l'occasion. Le temps presse. Ne le perds pas à faire des calculs de probabilité sur les conditions favorables. C'est la perte de Dieu qui fait tout. Verset 5. Toi, ne laisse pas reposer ta main. Il fait tout, mais il nous donne de faire. Le temps est compté. Demain, tu n'auras peut-être rien à donner. Alors donne aujourd'hui. C'est le contraire de ces deux pensées qui prévalent dans le cœur des hommes. Première, c'est mettre de côté. Pour toi, en cas de mauvais jour, ou alors donne dans l'espoir de recevoir davantage. Ces deux actes qui sont effacés par cette donne à cette même à lui. Alors l'Ecclésiaste donne deux invitations à se réjouir. Ce qui est étonnant, après ce parcours pessimiste, l'une pour la personne âgée, qu'elle goûte cette vie dans la lumière de Dieu, sans oublier les jours sombres, parce que ça lui fait apprécier davantage la vanité des choses et ça lui fait garder un cœur. Et l'autre invitation à se réjouir, c'est pour le jeune homme, qui a encore du temps, avec la liberté devant lui, pour tout entreprendre, avec l'assurance qu'a la jeunesse de faire selon les voies de son cœur, et il regarde ses yeux. Alors il y a une mise en garde de la fin du verset 9, et sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera au jugement. Ce n'est pas une menace casse la joie. Ce n'est pas une menace casse la joie. C'est un conseil pour agir selon le jugement de Dieu, car lui seul détient ce qui est juste, et éloigner ainsi le chagrin de son cœur en s'écartant lui-même du mal. Les illusions de la jeunesse partent vite en fumée. Elles sont vanité. Alors, c'est le moment favorable, le moment de la jeunesse. Mais c'est aussi au début de toute activité, c'est là le moment favorable. On peut placer non seulement pour la jeunesse, mais quand on veut faire un projet, il y a cet aiguillon qui est donné au verset 1er du chapitre 12. Souviens-toi de ton créateur. Le mot créateur est employé seulement là, dans l'Ecclésiaste. Alors il donne un coup de projecteur très puissant sur tout le livre. Comme pour dire, maintenant, à tout temps, avant de te prendre pour un créateur, faire quelque chose. Souviens-toi, tu n'es qu'une créature qui rendra compte à ce créateur qui est seul juge. Souviens-toi. Voilà, c'est combien de fois l'Éternel s'est adressé à son peuple, et le Seigneur à nous aussi, pour lui rappeler ses délivrances et ses bienfaits et ses promesses. Aujourd'hui, souviens-toi, c'est Dieu qui est la source de tout, qui fait tout. C'est ce qu'il disait déjà au verset 17 du chapitre 8 et au verset 5 du chapitre 11. Le temps de ta vie, de ta capacité à agir est limité et fugitif avant que n'arrive le temps où tu diras « je n'y prends plus plaisir ». Mais où tes capacités vont aussi se dégrader. Alors il y a ce poème tout à fait imagé sur la décrépitude qui chacun pourra lire. La vue qui baisse, les jambes qui faiblissent, les dents qui ont plus de force, etc. Donc, chacun pourra lire. Eh bien, voilà, ce poème est bien propre à nous rappeler que nous sommes tout à fait fragiles. Et alors, il y a cet avertissement de cette décrépitude avant que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 7, au verset 21, cette interrogation. Où va l'Esprit de l'homme qui se conduit comme une bête? Eh bien là, nous avons une réponse. C'est le souffle vital que Dieu lui a donné, eh bien, il retourne à Dieu. Il ne reste rien, presque rien, un souffle, une fumée, que Dieu recueille d'un homme, de toi. Vanité des vanités, c'est le poids d'une existence. Alors le verset 10 nous dit que l'Ecclésiaste s'est étudié à trouver des paroles agréables. Alors ce serait d'une grande ironie que de traduire ce mot par plaisante. Agréable doit s'entendre par « que Dieu peut t'agréer », ce qui est solennel. On trouve cette expression au verset 7 du chapitre 9, on la trouve aussi en Romains 12, au verset 1 et 2. Et ces paroles sont comme des clous enfoncés. Nous avons eu ces 7 clous. Eh bien, voilà pourquoi il avait planté ces clous. Parce que ils sont donnés par un berger unique, ou un seul pasteur, Dieu. Dieu qui est appelé ainsi dans le psaume 80 au verset 1er. L'Ecclésiaste parle de sa part et il ne convient pas d'aller au-delà. Ces clous nous ont conduits à cette conclusion qui englobe, éclaire et résume ce livre. Crains Dieu et garde ses commandements. Et on notera que l'Ecclésiaste ne nous a pas donné de commandements. Michée disait au chapitre 6, qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit et que tu marches humblement avec ton Dieu. Craindre Dieu, c'est se tourner avec respect vers lui, avec la conscience qu'il est éternité, qu'il dispose ton temps, tes circonstances, et qu'il en dispose aussi. Il a fait qu'il dirige toutes choses, qu'il est un Dieu qui donne sans faire de reproche. Lui seul peut juger ce qui est bien ou mal. Lui seul est justice, alors que sous le soleil on n'avait pas trouvé de justice, eh bien, où elle était passée, la justice, elle était en Dieu. Et c'est lui qui amènera toutes choses en jugement. Il n'est pas question ici du jugement des hommes, mais de l'appréciation de leurs œuvres. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse 20, au verset 12. les morts furent jugés d'après les œuvres qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Ça nous est dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 10, et Romains 2, verset 6, t'en passe, chacun le trouvera. Cette crainte, nous dit-il, est le tout de l'homme. Donc il nous faut que nous fassions bien attention. Ce n'est pas le fait accessoire d'une religion approximative. C'est le tout de l'homme. L'Ecclésiaste a parcouru le chemin inverse que nous avons lu pour l'homme en Romains 1, 18. Pour le croyant d'aujourd'hui, la crainte de Dieu, le tout de l'homme pourrait se traduire par « Pour moi, vivre, c'est Christ ».